Vous écoutez On lit pour vous.
Fentanyl en prison, la naloxone reste peu accessible aux détenus et aux gardiens. Un texte de Jean-Philippe Nadeau, paru le 25 juin 2025 sur Ici Toronto. L'enquête du coroner dit permettre de faire la lumière sur les circonstances dans lesquelles 7 détenus sont morts dans un intervalle de 2 ans à la prison provinciale de Milton. Au dernier jour des audiences, l'enquête du coroner sur la mort de 7 détenus de la prison Maplehurst révèle que les agents correctionnels ne portent toujours aucune trousse de naloxone sur eux et que les cellules en sont dépourvues. Les responsables de la prison provinciale de Milton et du ministère soutiennent qu'elle est toutefois accessible à tous les étages de l'établissement. Wesley Da Silva, Corey Hempstead, Sean Irvin, Derek Joan, Curtis McGowan, Peter Ormond et Ratanbir Sidhu ont succombé à une surdose de fentanyl ou de carfentanyl entre 2017 et 2019. Ils étaient âgés de 23 à 38 ans. 5 d'entre eux ont été découverts inanimés dans leur cellule par des gardiens au cours de leur ronde. Curtis McGowan a été trouvé par un co-détenu et Ratanbir Sidhu est mort après avoir partagé la drogue avec d'autres prisonniers. Il n'y avait aucune trousse de naloxone dans leurs cellules respectives que les 7 victimes partageaient avec un co-détenu et les agents correctionnels n'en portaient pas non plus à leur ceinture. De meilleurs accès à la naloxone. Le sergent-chef du complexe correctionnel, Andrew Garbags, affirme que les choses ont changé depuis 5 ans. Outre à l'infirmerie, des trousses sont maintenant disponibles aux mêmes endroits que les défibrillateurs et dans les postes de commande vitrés dans chacune des ailes de la prison. Il admet que les gardiens n'en possèdent toujours pas à la taille. J'ignore si le ministère est en train d'y penser, mais le protocole ne les autorise pas à en avoir sur eux, dit-il. Il souligne néanmoins que tous les agents savent comment en administrer en cas d'urgence, puisqu'ils ont reçu une formation à ce sujet. La directrice adjointe des opérations de santé au ministère du solliciteur général, Crystal Miller, explique pour sa part qu'il n'est pas possible de laisser des trousses dans les cellules. L'avocat du ministère public, Jay Darr, faisait valoir que ces trousses sont très faciles à manipuler et qu'elles sont aujourd'hui disponibles dans la communauté. Pourquoi ne pas laisser un co-détenu avoir un accès direct à ce traitement pour qu'il puisse l'administrer sur le champ à son camarade de cellule? S'interroge-t-il. Madame Miller, qui est infirmière de métier, affirme qu'un traitement de naloxone doit être accompagné de manœuvres d'urgence, comme la réanimation cardio-respiratoire et l'utilisation d'un défibrillateur. Il faut une intervention conjointe du personnel médical de la prison, des gardiens et des ambulanciers, dit-elle. Madame Miller laisse entendre qu'il n'est pas garanti que le co-détenu appelle des intervenants de première ligne après avoir administré lui-même la naloxone à son camarade de cellule. Un tel traitement accessible dans les cellules soulève donc des inquiétudes, ajoute-t-elle. Elle confirme qu'il est possible de mettre en observation un prisonnier aux prises avec une dépendance aux opioïdes, mais qu'il n'y a pas d'espace physique à cet effet dans les ailes de l'établissement. Il faut que le patient remplisse certains critères et il revient à un médecin d'en prendre la décision au cas par cas, admet-elle, précisant que la naloxone n'est pas efficace à 100%. De graves problèmes d'embauche. Madame Miller ajoute que le personnel médical identifie davantage aujourd'hui les prisonniers qui sont dépendants au fentanyl pour mieux les suivre en détention. Elle souligne que la consigne est de prescrire de la naloxone dans les 48 heures après qu'un détenu en ait fait la demande. Elle reconnaît toutefois que ce délai n'est pas respecté dans 70 % des cas et que des prisonniers peuvent même attendre de 5 à 6 jours avant d'en obtenir de l'infirmerie. Madame Miller explique que la population carcérale est trop grande pour le nombre d'employés et qu'il est difficile de respecter la consigne. Des impératifs comme la sécurité font en sorte qu'on ne peut aider les détenus comme on le veut, dit-elle en mentionnant que le confinement cellulaire explique en partie le problème. L'embauche de personnel est certainement, selon elle, une barrière à l'accessibilité des soins en détention. Madame Miller admet qu'il y a moins de personnel la nuit ou les week-ends. Elle affirme que la priorité est accordée aux toxicomanes et que la direction s'assure que leur temps de clinique ne soit pas annulé dans les périodes de verrouillage. Elle déclare toutefois que les gestionnaires sont en train d'embaucher 3 nouvelles infirmières pour compléter l'équipe médicale qui est composée pour l'heure de 3 médecins et de 3 infirmières praticiennes. Le problème de personnel parmi les gardiens, cette fois, affecte leur travail, selon le sergent-chef Andrew Garbax, qui précise que les détenus ne sont surveillés que par 2 agents durant la journée lorsqu'ils sont en dehors de leur cellule dans chaque aile de l'établissement. Il faut un gardien près du poste de contrôle et un autre qui circule parmi les prisonniers pour éviter qu'ils ne se donnent à des activités illégales comme la contrebande, explique-t-il. Le sergent-chef Garbax mentionne que le manque de gardiens se fait surtout ressentir durant l'été à cause des vacances. Le verrouillage et le confinement cellulaire permettent de compenser la pénurie de personnel, déclare-t-il. Il reconnaît d'ailleurs que des rondes n'ont pas été effectuées dans les temps escomptés durant la période de 2017 à 2019 à cause du manque de gardiens. Même chose pour les fouilles mensuelles des cellules, qui peuvent parfois être abandonnées, affirme-t-il. Le sergent-chef Garbax précise que le nombre de détenus est passé d'environ 900 en 2019 à 1500 en 2025. Le ratio est encore plus déficitaire et défavorable aux gardiens, si bien que leurs tâches ont augmenté avec le temps, mentionne-t-il. Des rondes de nuit déficientes. Les 7 décès sont survenus entre 1h et 5h30 du matin, et le manque de personnel fait en sorte que les rondes peuvent s'avérer inefficaces dans la mesure où les gardiens sont moins nombreux durant la nuit. L'enquête a démontré que l'agent Marco Ruzic avait quitté son poste pour effectuer une ronde de nuit parce qu'il s'ennuyait dans son poste de commande. Or, il a violé plusieurs règles lorsqu'il a découvert le corps de Sean Irvin dans sa cellule le 29 octobre 2019. Ils sont 2 gardiens par ronde et par aile de la prison, et les rondes doivent intervenir dans un intervalle de 30 minutes, explique le sergent-chef Garbax. Il y a de bons et d'horribles tours de garde, admet-il. Celui-ci affirme toutefois que les détenus ont besoin de bonnes nuits de sommeil pour leur équilibre psychologique et qu'il ne faudrait pas non plus les réveiller inutilement en augmentant le nombre de rondes. Certains d'entre eux cachent le plafonnier de leur cellule ou bloquent la fenêtre de leur porte avec un tissu pour être complètement plongés dans le noir, dit-il. Il ajoute que c'est la raison pour laquelle les gardiens portent maintenant des lampes de poche à leur ceinture. La lutte contre la contrebande. Le responsable des opérations spécialisées au sein du ministère, Michael Pernall, affirme que la province déploie de nombreux efforts pour s'attaquer à la contrebande et mettre fin aux surdoses. Il explique qu'une stratégie a été implantée pour améliorer la détection et la prévention dans toutes les prisons de la province. Il assure que visiteurs et entrepreneurs doivent se soumettre à des détecteurs sophistiqués et leurs bagages sont fouillés comme dans les aéroports. Le personnel est lui aussi soumis de façon aléatoire à des fouilles et le courrier est passé au peigne fin, dit-il. Michael Pernall ajoute que des unités canines ont été créées depuis 2019, mais que les chiens n'ont toujours pas été entraînés à détecter l'odeur du fentanyl. « On y travaille », précise-t-il. Il mentionne néanmoins que les chiens sont utilisés dans les aires de la prison, à l'intérieur comme à l'extérieur, mais jamais sur des individus. M. Pernall mentionne qu'en cas de soupçon, un visiteur qui transporterait de la drogue sur lui se verrait refuser l'entrée. Les détenus qui arrivent à la prison ou qui reviennent de l'extérieur peuvent être envoyés dans des cellules sèches en cas de doute, précise-t-il. Il ajoute que ces cellules sont munies d'une toilette spéciale qui permet de récupérer de la drogue qui aurait été ingérée par le prisonnier. Le détenu peut y rester jusqu'à 72 heures avant qu'il ne soit relâché et éventuellement discipliné, conclut-il. C'était « Fentanyl en prison, la naloxone reste peu accessible aux détenus et aux gardiens ». Un texte de Jean-Philippe Nadeau, paru le 25 juin 2025 sur Ici Toronto.
Faites entrer le conseil scientifique à l'hôtel de ville. Un texte de Rémi Quirion et Antoine Tardif, paru le 20 juin 2025 dans la presse. Rémi Quirion est le scientifique en chef du Québec et Antoine Tardif est maire de Victoriaville. Il propose la création de conseils scientifiques municipaux afin d'outiller les élus dans la prise de décisions complexes. À Victoriaville, comme à Longueuil, les réalités du territoire façonnent les décisions publiques. Le Québec compte 1108 municipalités, chacune avec sa culture, ses priorités, ses défis. Et pourtant, la majorité prend des décisions sans accès direct à une expertise scientifique adaptée à son contexte. Dans un monde où l'abondance d'informations rivalise avec la complexité des enjeux, il est urgent de créer des passerelles durables entre science et politique municipale. Cela commence par une science disponible en français, compréhensible dans la langue des personnes élues, mais aussi dans leur réalité. C'est pourquoi, à la veille des prochaines élections municipales, nous proposons que les candidates et candidats intègrent dans leur programme la création de conseils scientifiques municipaux. Les municipalités sont en première ligne face aux grands enjeux de notre époque, changement climatique, santé publique, aménagement du territoire, adaptation, résilience, intelligence artificielle. Pourtant, les personnes élues à l'échelle municipale doivent souvent naviguer seules dans le chaos informationnel sans filet scientifique structuré. C'est pour combler ce vide que le Québec a vu naître, à Victoriaville, le premier conseil scientifique municipal, une initiative innovante qui permet de localiser les objectifs de développement durable et de les incarner concrètement sur le terrain. Les conseillers et conseillères scientifiques en chef municipaux ne sont ni des technocrates ni des militants. Ce sont des passeurs et des passeuses de science, possédant une riche formation scientifique et un large réseau d'expertise, en plus d'habiletés de vulgarisation. Parfois employés d'un établissement d'enseignement supérieur, parfois de la ville, seuls ou organisés en comité, ces experts et expertes constituent une solution simple et adaptable à toutes sortes de municipalités, quel que soit leur emplacement ou leur taille. Leur mission? Offrir des avis rigoureux, indépendants et utiles au plus haut niveau de décision dans les villes. À Victoriaville, le conseiller scientifique en chef incarne aujourd'hui une nouvelle figure de la diplomatie scientifique de proximité. Il a permis de structurer une stratégie municipale d'atteinte des objectifs de développement durable, de développer de nouveaux marchés en économie circulaire, d'ancrer la résilience dans les politiques locales et de mobiliser les personnes élues, fonctionnaires et communautés citoyennes autour de décisions plus éclairées. Il a tout simplement permis, en stimulant l'innovation sur le territoire, de gouverner autrement. Victoriaville a ouvert la voie et depuis, le mouvement s'est propagé. En à peine 2 ans, Longueuil, Gatineau, Sorel-Tracy, Drummondville, la communauté métropolitaine de Montréal, Mirabel, Salaberry de Valleyfield, Sainte-Marthe et Contrecoeur ont suivi le mouvement. Pour accompagner cette dynamique, le Fonds de recherche du Québec a mis en place la table des conseillères et conseillers scientifiques municipaux, un espace de collaboration qui permet à ces expertes et experts de terrain de mettre en commun les pratiques les plus prometteuses et de travailler ensemble. En 2025, il est temps de dire que gouverner sans l'apport de la science, c'est prendre le risque d'agir à l'aveugle. Nous invitons donc les candidats et candidates à profiter de cette période électorale pour affirmer leur volonté de mieux outiller la gouvernance municipale en explorant la possibilité de se doter, dans leur ville, d'un conseil scientifique adapté à leur réalité territoriale. C'était « Faites entrer le conseil scientifique à l'Hôtel de Ville », un texte de Rémi Quirion et Antoine Tartif, paru le 20 juin 2025 dans la presse.
L'influence d'un prix. Un texte d'Audrey Martel paru le 21 octobre 2024 dans les libraires. Dans un article paru entre ces pages en novembre 2023, je faisais part de mon vif intérêt pour les prix littéraires. C'est donc avec plaisir, et je l'avoue, une grande curiosité, que je me suis plongé dans la lecture d'une analyse sur le sujet, réalisée par la BTLF en collaboration avec HEC. La BTLF, c'est l'acronyme qui désigne la Société de gestion de la Banque de titres de langue française. Grâce à ses outils et ses analyses de données, la BTLF contribue à l'amélioration de la commercialisation des produits de l'édition en langue française au Canada. Afin de mieux comprendre le marché du livre au Québec, la BTLF collige depuis 2009, dans une base de données joyeusement nommée Gaspard, les informations de vente des livres de langue française dans la province. Ces données de vente concerne tant les livres vendus au détail et sur le web que les ventes aux institutions, c'est-à-dire les bibliothèques publiques et scolaires notamment. Les commerces participant à cette collecte de données comprennent le réseau des librairies indépendantes ainsi que certaines grandes surfaces. C'est à partir de ces données qu'une chercheuse de HEC mandatée par la BTLF a pu réaliser une étude sur l'impact des prix littéraires sur les ventes en librairie. En s'appuyant sur les données issues du système Gaspard sur une période allant de 2013 à 2022, elle a analysé les ventes de 534 livres afin de répondre à la grande question suivante. Les prix littéraires, qu'est-ce que ça donne? Effet sur les ventes. Les statistiques contenues dans cette recherche concernent tant les lauréats que les finalistes de 30 grands prix littéraires canadiens et français. Afin de bien analyser l'évolution des ventes, la chercheuse a comparé les 6 mois précédant la nomination et les 6 mois suivant celle-ci. Je vous le donne en mille, les prix littéraires, ça fait vendre. Pour les finalistes et les lauréats, on parle d'une augmentation moyenne de 174 % des ventes au détail et de 155 % des ventes aux collectivités. Il est pertinent de mentionner que les grands prix littéraires français sont pour la plupart judicieusement octroyés dans les semaines précédant Noël. Il n'est donc pas rare qu'ils fassent partie des meilleurs vendeurs durant cette période. Ainsi, bon an mal an, le Goncourt se retrouve souvent sous le sapin dans plusieurs foyers québécois. Nous n'avons malheureusement pas de statistiques quant au niveau de satisfaction que représente ce cadeau. Est-ce que tous les prix se valent? Il y a plus de 2000 prix littéraires en France seulement. Cela dit, toutes ces distinctions n'ont pas la même renommée. Ainsi, selon l'étude de la BTLF, tous les prix ne se valent pas quant à l'incidence qu'ils ont sur le marché. 30 prix littéraires ont été retenus pour l'étude. Ils ont été classés selon leur reconnaissance par le public, leur importance, leur popularité et leur prestige. À cela s'est ajoutée la couverture médiatique dont ils bénéficient. Selon ce classement, le prix Pulitzer, États-Unis, est le prix le plus prestigieux, suivi du prix Goncourt, France, et du Scotiabank Geller Prize, Canada. En quatrième position se trouvent le prix Renaudot, France, et le Booker Prize, Grande-Bretagne, vient clore ce top 5. Notons que, selon les critères établis par l'étude de la BTLF, le prix des libraires du Québec se classe en 17e position. Il est devancé par le prix littéraire des collégiens qui se retrouve en 16e position. En général, plus le prix est populaire, plus les ventes augmentent. Il y a donc un effet certain sur les ventes pour les prix moins importants, mais ceux-ci ne garantissent pas pour autant une hausse significative des ventes à long terme. Chaque année, le livre couronné du prix Goncourt se vend à près de 400 000 exemplaires. Imaginez la machine qui doit se mettre en branle au moment de l'annonce du vainqueur pour assurer la disponibilité du livre sur les tablettes des librairies à travers la francophonie. Puisqu'on parle de chiffres, c'est L'Amant de Marguerite Duras, Minuit 1984, qui est le gagnant du Goncourt le plus vendu de l'histoire. Il est toutefois suivi de près par L'Anomalie de Hervé Le Tellier, Gallimard 2020, qui, en pleine pandémie, a franchi la barre du million d'exemplaires vendus à travers la francophonie. Est-ce que l'effet est le même pour tous les livres nommés? Un peu plus du tiers des 534 livres de l'étude ont été primés. Sans surprise, ce sont ceux-ci qui profitent le plus de la situation avec une augmentation de 229 % des ventes au détail. Les finalistes sont également avantagés par la vitrine que permet leur mention sur les prestigieuses listes de prix, mais l'effet est moindre. Ils bénéficient pour leur part d'une augmentation moyenne de 20 % des ventes. Par ailleurs, tandis que les livres gagnants voient leurs ventes demeurer relativement hautes dans les 6 mois suivant l'annonce des lauréats, ce n'est pas le cas pour les finalistes. Les ventes de ceux-là retournent à la normale beaucoup plus rapidement. Et pour les livres canadiens? Les prix littéraires canadiens ne représente que le tiers des 30 prix les plus prestigieux qui ont retenu l'attention de l'étude de la BTLF. Bien que ceux-ci soient moins nombreux et moins prestigieux, leur effet demeure plus qu'avantageux pour les ventes des livres canadiens lorsqu'ils sont récompensés d'un prix littéraire. Les livres d'ici voient donc leur vente exploser avec une augmentation de 269% au détail et de 247% pour les ventes aux collectivités. Simon-Philippe Turcot, des éditions La Peuplade, confiait au magazine L'Actualité que la plus grande crainte des éditeurs, c'est le silence. Difficile donc de lever le nez sur la reconnaissance que représente un prix littéraire qui, selon lui, peut permettre de promouvoir de nouveau le livre auprès des libraires, sur les médias sociaux ou auprès de son réseau de producteurs et d'éditeurs étrangers. Qu'en est-il du rôle des libraires? Il y a, bien sûr, d'autres données qui influencent les ventes en librairie. Pensons, entre autres, à la popularité de l'auteuriste ou au prestige de l'éditeur. Sans compter les campagnes médiatiques entourant la parution, à cet égard, il faudrait sans doute faire une étude sur l'effet qu'a un passage à l'émission « Tout le monde en parle » sur les ventes de livres au Québec. Il y a aussi le bouche-à-oreille ou le fait que le sujet abordé soit dans l'air du temps, comme ce fut le cas au printemps 2024 pour le livre « Rue du Plessis » de Jean-Philippe Plot. Luxe. En somme, le saut d'excellence que représentent les prix littéraires est non négligeable. Il stimule la curiosité des lecteurs et lectrices, en plus de représenter un gage de qualité lié à une longue tradition littéraire. Je me souviens d'un client qui m'avait confié ne jamais lire de roman, sauf le gagnant du Goncourt, qu'il achetait chaque année depuis des décennies. Recevoir un prix est une consécration qui marque l'approbation par les pairs, doublée d'une augmentation significative des ventes. Mais si les libraires n'en font pas la promotion en librairie, ne plébiscitent pas les lauréats, ou pire, ne les critiquent pas, est-ce que les résultats seront les mêmes? Qui se souvient du lauréat du Goncourt de 2000? L'Académie avait alors remis son célèbre prix à Jean-Jacques Chou pour le livre « Ingrid Cavan, Gallimard ». Ce livre, jugé invendable par les libraires, est bien vite tombé dans l'oubli. C'était « L'influence d'un prix », un texte d'Audrey Martel paru le 21 octobre 2024 dans « Les libraires ».